France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Vous êtes plus cultivé que les serfs russes du 19e siècle, mais vous n'êtes rien d'autre que des esclaves.
C'est l'ancien monde politiquement correct qui est en train d'être mis en cause. Et c'est un point de rupture dans l'histoire, je pense, de l'Occident, ce qui est en train de se passer.
En tout cas, moi, je pense par moi-même, donc j'ai pas besoin d'avoir un souffleur. Voilà. Et donc, je n'irai pas me jeter dans les bras de Bannon, pas plus que de Merkel, comme M. Macron.
Matteo Salvini se voit déjà remplacer Jean-Claude Juncker. Le patron de l'extrême droite italienne, homme fort du nouveau gouvernement, croit à la victoire d'une coalition souverainiste aux élections européennes de mai prochain, au point d'envisager une candidature à la présidence de la Commission européenne. La Ligue s'est lancée dans la campagne, aux côtés du Rassemblement national de Marine Le Pen, et elle compte un autre allié plus surprenant, l'Américain Steve Bannon. L'ancien conseiller stratégique de Donald Trump et artisan de la victoire du président américain veut aujourd'hui peser dans la campagne européenne. Après avoir aidé Nigel Farage à propager les idées pro-Brexit au Royaume-Uni, il prétend fédérer tous les partis eurosceptiques européens et les aider à conquérir le Parlement européen. Veste de combat sur le dos, Steve Bannon sillonne l'Union européenne. Il a rencontré le Hongrois Viktor Orban, le Tchèque Miloš Zeman, il a des contacts avec l'AFD en Allemagne et place donc de grands espoirs dans Matteo Salvini. Il y a quelques semaines, il a annoncé la création d'un think tank intitulé « Le Mouvement », un club qui défend les valeurs de la civilisation judéo-chrétienne. Mais peut-on facilement passer du slogan « America first » à la défense des États-nations en Europe ? Et au-delà des discours offensifs, quelle est la réelle force de frappe de Steve Bannon, limogé de la Maison-Blanche et également mis sur la touche par le milliardaire Robert Mercer ? Steve Bannon, l'Europe dans le viseur, c'est un reportage signé Annabelle Crelier. Dans Grand Reportage, le magazine de la rédaction de France Culture, nous recevons aujourd'hui le politologue Jean-Yves Camus. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Observatoire des radicalités politiques et chercheur associé à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. En 2015, vous avez écrit « Les droites extrêmes en Europe » avec Nicolas Lebourg, un livre paru aux éditions du Seuil. Et bonjour François Durper.
Bonjour Aurélie Kiefer.
Historien, merci. Vous êtes spécialiste des États-Unis, membre du laboratoire Bonheur de l'Université de Sergi Pontoise, et puis je cite votre dernier livre « Nos ancêtres ne sont pas gaulois, contre-histoire de France », paru en septembre chez Albin Michel. Nous allons donc analyser ensemble les ressorts de l'offensive européenne de Steve Bannon après avoir écouté le reportage d'Annabelle Grelier. Quelle est la part de fantasme autour du personnage de Steve Bannon et quelle est la réalité ? C'est ce que vous avez voulu démêler au cours de votre enquête, Annabelle.
Oui, Steve Bannon est un personnage particulier, un personnage trouble avec son allure débraillée, mal rasée, son fort accent américain, on pourrait facilement le ranger dans la case des marginaux. Il s'est entouré d'une équipe de fidèles quasiment inconnus du grand public. Il affiche des ambitions, celles de fédérer des partis politiques comme si on attendait que lui. Il prévoit des événements, un grand rassemblement des mouvements populistes à Bruxelles à la mi-janvier. On serait tenté de ne pas le prendre au sérieux, mais Steve Bannon a tout de même été conseiller stratégique de Donald Trump. Il voyage comme un homme d'affaires, rencontre des chefs de gouvernement, il se déplace avec des gardes du corps, est escorté par la police. Bref, pas tout à fait un homme ordinaire quand même. En tout cas, tout ça est très nébuleux, le personnage sent le souffre et forcément, il attire la curiosité des médias. Et c'est sans doute là sa première force, la communication. Aujourd'hui, son équipe réceptionne les demandes d'interview de tous les médias européens. Il entretient le mystère, il se fait désirer, il saura s'en servir au moment où il en aura besoin. Il a son propre calendrier. Quant à savoir si son arrivée dans la bataille des Européennes peut changer la donne, eh bien, il a déjà réussi à attirer l'attention sur cette prochaine campagne qui jusque-là ne mobilisait quand même tout de même guère l'attention des électeurs, pas plus que les médias.
Alors nous partons d'abord à Rome, où Steve Bannon a donné une conférence publique le 22 septembre. Il était l'invité d'honneur du rassemblement annuel de Fratelli d'Italia, petit parti d'extrême droite dirigé par Giorgia Meloni.
Escorté par la police italienne, Steve Bannon fait son entrée.
Giorgia Meloni l'accueille sur l'estrade installée sur la petite île de Tibérine à Rome. Steve Bannon, que la chef de file des Frères d'Italie présente à son public comme l'une des personnalités les plus intéressantes de la scène internationale.
Allora vi chiedo un grande applauso per Steve Bannon.
Thank you, Giorgia.
Stratega, pensatore, tante cose interessanti.
Thank you, brothers of Italy, for having me here today to speak at your conference.
Cette année, Steve Bannon, en tête d'affiche de la Triou à Rome, est dans son élément. Pour lui, l'Italie est l'épicentre de la révolte populiste. Les dernières élections italiennes ont porté au pouvoir une coalition d'un parti anti-système, le mouvement 5 étoiles, et un parti d'extrême droite, la Ligue. Son chef de file, Matteo Salvini, devenu ministre de l'Intérieur, a sonné la charge anti-migrants, anti-Union européenne. Avec près de 70% de soutien dans les sondages italiens, c'est l'homme fort du pays. Tous deux sont en campagne contre l'Europe de Bruxelles, l'Europe des technocrates, l'Europe de la finance. Et la prochaine crise financière n'est pas loin, comme est venu l'expliquer au public l'ancien banquier d'affaires américain.
J'ai été diplômé de la Harvard Business School avec mention. J'ai travaillé chez Goldman Sachs au département des fusions-acquisitions, qui était à l'époque l'élite de Goldman Sachs. Alors je sais compter. On est en train de préparer la prochaine crise qui fera ressembler celle de 2008 à un pique-nique du dimanche. Ce sera une crise de la dette, ce sera une crise monétaire. Vous savez pourquoi les millennials, les jeunes qui sont rationnels, ne font pas de famille et pas d'enfants? Eh bien, ils comprennent que les banques centrales, en émettant de la monnaie à taux négatif, c'est-à-dire pour faire simple à taux zéro au profit des gouvernements, eh bien que les banques centrales mettent tout le monde dans une spirale de dettes de prêts qui tourne comme une roue de hamster. Vous vous épuisez à faire tourner la roue encore, encore et encore. Vous ne pourrez rien acheter ni rien épargner à cause de cette politique de taux zéro.
Vous ne pourrez pas acheter de maison, de biens immobiliers, car les prix sont trop chers. Et pourquoi sont-ils trop chers? Parce qu'ils ont créé de la monnaie pour laisser les riches se renflouer et pour permettre à des pays comme la Chine et d'autres de venir acheter vos maisons. Vous, les moins de 35 ans, les millennials, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous êtes mieux nourris, vous êtes en meilleure santé, vous êtes plus cultivés que les serfs russes du 19e siècle, mais vous n'êtes rien d'autre que des esclaves.
Et Steve Bannon, d'enchaîner sur ceux qui ont causé les malheurs de la classe moyenne européenne, ses cibles privilégiées, les élites et les médias.
Le culot de ces gens est inouï. Vous entendez ces grands médias comme la BBC, CNN et tous ces médias qui nous sont opposés et qui disent « Oh, la démocratie ne marche pas !» Et donc la démocratie non libérale ne marchera pas non plus. La démocratie ne marche pas pour eux parce qu'ils ne gagnent plus les élections. Mais maintenant que les gens en Hongrie, en Italie, au Royaume-Uni et aux États-Unis se réveillent, des gens de la classe ouvrière, pas des gens de l'élite, des gens d'en bas qui disent « On ne va plus jouer le jeu, on ne veut plus les suivre, on sait ce qu'on a et ce qu'on veut transmettre à la génération montante et nous allons nous battre pour ça. » Et c'est ça qui se passe partout, avec Trump et avec le Brexit, malgré tous les obstacles. Mais chez vous, c'est la plus importante des expérimentations, parce que ici, vous essayez avec des gens qui n'hésitent pas à remettre en question les principes et les fondements avec l'idée que ça va marcher. Et c'est pour ça que tous les médias sont là, pas pour venir me voir faire le guignol, mais parce qu'ils vont guetter chaque erreur de votre gouvernement, attendre chaque faute de Giorgia Meloni, et chaque fois qu'un de mes frères d'Italie dira quelque chose de travers, ils lui mettront une caméra en pleine figure parce qu'ils sont malins. Ils savent que si ça marche ici, la révolution se propagera partout.
Steve Bannon, l'ancien stratège de Donald Trump, a créé le Mouvement, un club destiné à réunir tous les partis populistes européens. L'objectif, ne faire qu'un seul groupe au Parlement à Bruxelles pour renverser la table. Son partenaire en Europe est Michael Modricamen, avocat pour des petits investisseurs qui étaient devenus victimes de l'effondrement de la banque Fortis. Il est aujourd'hui à la tête du Parti populaire belge qu'il a créé en 2009. Et c'est lui qui, à Rome, répond à nos questions.
Mais écoutez, oui, je suis le directeur exécutif et Steve est le président. Donc voilà, nous sommes deux partenaires essentiellement, et Raïm Kassam aussi.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez, entre guillemets, j'allais dire, pignon sur rue à Bruxelles ?
La fondation, je l'ai créée il y a un an et demi déjà, donc nous avons un siège déjà. Nous sommes en train d'engager une série de personnes. Il y a déjà une série qui travaille aux États-Unis sur le projet. Mes équipes travaillent aussi, mais nous avons maintenant engagé des gens spécifiques. On devrait avoir une équipe de 10-15 personnes au minimum qui travaillent plein temps, plus tous les consultants externes que nous allons faire venir pour des opérations spécifiques. Quand on va faire du polling, des sondages, il est clair qu'on fait appel à des consultants extérieurs.
Donc, et aujourd'hui, vous avez un bureau officiel ?
Oui, figurez-vous que j'ai une grande propriété et donc j'y ai déjà mon parti, j'y ai déjà mon média. Il y a encore de la place pour y mettre le Mouvement en tant que fondation. Donc tout ça existe, a déjà un siège. La première chose à faire, c'est de mettre tout le monde autour de la table. On parle beaucoup au téléphone, on rencontre, on déjeune et puis on fait un roadshow, une tournée où on va rencontrer des leaders. Et lorsque ils sont prêts à rejoindre le Mouvement et qu'ils acceptent qu'on l'annonce, eh bien on le fait. Ce qui nous manque pour l'instant, c'est le temps de commencer à voir tout le monde. Le but est de faire un club qui va mettre tout le monde autour de la table, qui va faire en sorte que nous nous soutenons mutuellement, nous prenons des positions communes sur certains points, et puis nous mettrons à disposition un certain nombre d'instruments, polling, des sondages, analyse big data, stratégie en matière de réseaux sociaux. Alors certains n'en ont pas besoin, mais d'autres seront très heureux d'avoir cette aide, cet assistant, avec quelqu'un comme M. Bannon qui a fait élire le président des États-Unis.
Mais alors par exemple en France, tu rentres dans ce profil du club ?
Je pense que vous avez comme partenaire potentiel, bien sûr, le Rassemblement National, et aussi Nicolas Dupont-Aignan. On leur parle aux uns et aux autres. Le Rassemblement National avait fait savoir qu'ils étaient désireux de nous rejoindre. J'ai de l'excellent contact avec Dupont-Aignan, qui est un ami personnel, donc nous étions dans le même mouvement politique. Mais je pense aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans les Républicains, qui partagent nos conceptions. Il y a dans beaucoup de pays des gens qui sont beaucoup plus mainstream, qui pourraient nous rejoindre. Je pense à un Mariani, je pense à ce candidat des jeunes, président des jeunes, Tenier ou Régnier, qui a quelques soucis pour l'instant avec son parti. Je pense qu'il pourrait faire partie, clairement. Je pense à Casado en Espagne, le président du Parti Populaire. Enfin, toutes ces personnes, bien qu'ils soient mainstream, M. Kurz en Autriche, ont vocation potentiellement également à rejoindre notre mouvement. Et il y a une grande demande. M. Salvini disait qu'il faut créer la ligue de toutes les ligues, etc. Autant le mouvement globaliste est organisé au niveau international avec le forum de Davos, avec Bilderberg, avec le soutien de notre ami Soros, notre ami entre guillemets, autant ça n'existait pas au niveau des mouvements populistes. C'est ce que nous sommes en train de faire.
Steve Bannon, Michael Modricamen ou encore Raïm Kassam, ancien membre du parti britannique de UKIP, ont lancé les invitations. En France, à la droite et l'extrême droite de l'échiquier politique, les tractations vont déjà bon train. Marine Le Pen a appelé Nicolas Dupont-Aignan et Laurent Wauquiez à rejoindre la liste du Rassemblement National pour les européennes, mais ni l'un ni l'autre n'y ont pour le moment répondu favorablement. Nicolas Dupont-Aignan a décidé, lui, d'être candidat et tête de liste en mai prochain. 19 conseillers régionaux élus en 2015 sous l'étiquette du Front National ont déjà décidé de se ranger derrière lui. Le club des populistes de Steve Bannon, Nicolas Dupont-Aignan serait-il intéressé ?
Mais d'abord, très sincèrement, enfin, je ne connais pas M. Bannon. Je serais ravi de le connaître, je ne le connais pas. On n'a pas attendu M. Bannon pour travailler ensemble entre partis. J'ai reçu en 2005, après le référendum français, une récompense d'un parti danois, M. Bond à l'époque, au Danemark. Donc vous voyez, les liens entre les différents partis sont anciens. Il n'y a pas besoin de M. Bannon pour se voir, se parler. Je connais M. Modricamen, d'ailleurs, avant que M. Bannon soit avec lui. Je crois que l'enjeu n'est pas de réinventer une espèce de supranationalité des eurosceptiques, puisque nous sommes par essence contre la dépendance, la soumission, l'absence de démocratie. Et moi, mon combat politique depuis toujours, ça a été de préserver l'indépendance de la France, c'est-à-dire sa démocratie, le droit du peuple français à disposer de lui-même, ce qui n'interdit pas de travailler avec nos voisins. Je me souviens même, après le référendum de 2005, d'avoir envoyé un projet de traité alternatif, sur lequel je suis toujours en accord, on travaille dessus toujours, à tous nos partenaires. Simplement, les contextes politiques sont différents selon les pays, les histoires, les cultures. Et justement, nous sommes hostiles à la purée de pois dont parlait le général de Gaulle. Donc, c'est pas pour en recréer une autre. Moi, j'ai pas besoin d'une purée de pois souverainiste. Et je crois au projet de coopération entre pays adultes.
Mais ce sont des moyens, surtout, qu'il vient offrir.
Quels moyens ? Moi, je les ai toujours pas vus, les moyens. Quels moyens ? Encore une fois, il y a beaucoup de mythes là-dessus. Alors, en revanche, qu'on écoute M. Bannon quand il parle de ses expériences, j'ai lu certaines analyses, mais qui sont très proches d'autres analyses, par exemple de M. Buisson, ou même venant de la gauche de M. Todd. C'est intéressant, le débat intellectuel, il est intéressant. Et M. Bannon dit des choses justes sur la paupérisation du milieu ouvrier aux États-Unis, en Europe, de la manière dont la Chine s'est arrogé la production mondiale au détriment des plus modestes, de la manière dont les oligarchies européennes ont pressé le citron et qui fait qu'il y a une révolte des peuples. Maintenant, les révoltes populaires seront transfigurées, transformées par le talent ou non des hommes politiques nationaux. Et moi, je souhaite que cette révolte populaire accouche du meilleur et pas du pire.
Vous pensez qu'avec Steve Bannon, elle peut accoucher du pire ?
Non, mais je veux dire, Steve Bannon est très bon pour les États-Unis, mais pour la France, je préfère M. Dupont-Aignan et ses conseillers. Voilà. En tout cas, moi, je pense par moi-même, donc je n'ai pas besoin d'avoir un souffleur. Voilà. Et donc, je n'irai pas me jeter dans les bras de Bannon, pas plus que de Merkel, comme M. Macron. On ne peut pas reprocher à M. Macron de se jeter dans les bras de Mme Merkel et de lui obéir servilement, et nous, d'aller se précipiter dans les bras de M. Bannon, quelles que soient ses qualités. Il a sans doute eu de grandes qualités pour M. Trump. Il peut donner des conseils, très bien. Voilà. De là à passer avec armes et bagages sous l'autorité de quelqu'un qu'on ne connaît pas, ça ne sera pas moi.
À Strasbourg, au Parlement européen, Florian Philippot, chef de file des Patriotes, parade aux côtés de son président de groupe, le Britannique Nigel Farage. Un an après le divorce avec Marine Le Pen et le Front National, le parti qui milite pour le Frexit est en sursis. S'il ne dépasse pas au moins les 3% aux élections européennes dans 8 mois, sa campagne ne sera pas remboursée et les Patriotes pourraient bien finir en faillite. Le club de Steve Bannon pourrait-il l'aider ?
Oui, je n'ai aucune relation, je n'en ai jamais eu avec Steve Bannon. Et je vois cela avec beaucoup de distance. Disons que ça n'a jamais été, ni lui, ni ce qu'il représente, n'ont été ma tasse de thé. Je crois qu'il s'agit de l'émanation des petits partis américains, c'est-à-dire une droite américaine conservatrice, libérale. Ça n'est pas du tout ma tasse de thé pour le coup. C'est-à-dire que moi, je suis pour le dépassement du clivage gauche-droite. Je ne suis pas conservateur. Je ne suis pas libéral du point de vue économique. Je le suis plus du point de vue sociétal. Donc voilà, donc on n'a pas grand chose en commun et donc je m'y retrouve pas. Et par ailleurs, je pense que quand on est patriote français comme je le suis, à la tête d'ailleurs des patriotes, il est tout à fait étonnant de se mettre dans les mains d'un Américain, peut-être même y compris financièrement.
Par contre, par exemple, au Front National, Louis Alliot le rencontre très souvent et lui est plutôt partisan de créer ce grand club. Vous regardez ça comment ?
Oui, non, je ne suis pas totalement étonné. Moi, j'ai bien vu la dérive, je l'ai quitté il y a un an pour ça, j'ai vu la dérive du Front National vers l'alliance des droites et des extrêmes droites. Ils ont invité Steve Bannon à leur congrès. Ça peut être une manière d'exister, c'est-à-dire d'arriver dans ce grand projet d'union des droites sur un modèle libéral, sur un projet conservateur, sur les mœurs, etc. Ça peut être une manière d'exister quand on n'a plus grand-chose à proposer, quand on n'a plus grand-chose à penser soi-même, quand on n'a plus grand-chose à dire soi-même. Je crois que c'est le signe d'une dérive idéologique et d'une incapacité à se renouveler. Encore une fois, c'est le choix du Front National, mais les patriotes, on n'est pas dans ce registre-là.
Et Steve Bannon, sa façon de communiquer, sa façon, on le sait, il s'en vante, hein, d'inventer des fake news qui après font le buzz. Cette façon, il dit qu'il va passer 80% de son temps à Bruxelles juste après les midterms américains. Comment vous percevez ça ? Est-ce que ça peut, d'abord, est-ce que ça peut fonctionner ? Mais est-ce que surtout, ça peut changer quelque chose au niveau européen, au niveau d'un fonctionnement ?
Je crois pas que c'est... L'objectif étant probablement de faire de l'agitation par les fake news, d'exister, de faire du buzz, mais est-ce que c'est comme ça qu'on construit une alternative solide, qu'on arrive au pouvoir, qu'on change la politique de son pays, qu'on améliore le quotidien des habitants de son pays ? Non, voilà, je suis vraiment à milieu tout ça en réalité. Je pense que les fake news, ça fait son effet 3 jours et puis ensuite c'est contre-productif. Je m'y retrouve vraiment pas, c'est une droite américaine du fric, du conservatisme, du libéralisme. Je vois pas très bien ce que ça à avoir avec un modèle patriotique français.
Méfiance, dénigrement, voire même hostilité, Steve Bannon ne remporte visiblement pas l'adhésion enthousiaste des partis souverainistes et d'extrême droite français. Mais ces déclarations officielles ne sont-elles pas seulement de nature à rassurer l'électorat ?
History is is on our side.
L'histoire est avec nous.
Let them call you racist.
Laissez-les vous appeler racistes.
Let them call you xenophobes.
Laissez-les vous appeler xénophobes.
Let them call you nativist.
Laissez-vous les appeler nativistes.
Wear it as a badge of honor.
Portez-le comme un badge d'honneur.
Because every day we get stronger and they get weaker.
Parce que chaque jour qui passe, nous devenons plus forts et eux s'affaiblissent.
Je pense qu'elle est formidable. Marine Le Pen est l'une des meilleures leaders politiques du monde, en particulier chez les populistes. Ce mouvement qui est en train de se répandre, comme on l'a vu, avec l'élection de Donald Trump aux États-Unis, ce week-end en Italie, et ça a commencé en Hongrie et en Pologne. Elle est l'une des leaders de ce mouvement. J'avais envie de la rencontrer depuis longtemps. J'ai beaucoup apprécié l'invitation à prendre la parole dans ce congrès. La France est très différente des États-Unis. Aujourd'hui, j'ai apporté au Front National des nouveaux concepts.
Vous avez rencontré Marion Maréchal Le Pen. Sont-elles similaires ou différentes ?
Marion Maréchal Le Pen est venue au congrès des conservateurs américains et elle a fait un discours fabuleux. Mais Marion Maréchal Le Pen, je l'ai rencontrée à Washington. Elle va dans une autre direction. Elle se place hors de la politique et fait quelque chose de plus culturel. Donc je pense qu'elles sont sur deux voies différentes.
En mars dernier, Marine Le Pen s'affichait aux côtés de Steve Bannon, invité d'honneur du congrès du Front National. Un souffle nouveau venu d'Amérique pour lancer le Rassemblement National. La semaine dernière, avec Matteo Salvini à Rome, le ton n'était plus le même.
Permettez-moi d'abord de répondre à une question que vous ne posez pas mais que vous avez évoquée, car elle a fait l'objet de beaucoup de conjectures et j'aimerais clarifier cela. C'est la proposition qui a été faite par Monsieur Bannon. Monsieur Bannon n'est pas issu d'un pays européen. Il est un Américain. Bon. Il a suggéré la création d'une fondation qui vise à offrir, en fait, aux partis souverainistes européens des études, des sondages, des analyses. Mais la force politique qui naîtra des élections en Europe, c'est nous. Et nous seuls qui la structurerons, car nous sommes attachés à notre liberté, attachés à notre souveraineté, et c'est nous autres, ensemble, représentants des différents peuples en Europe, qui structurerons la force politique qui vise à sauver précisément l'Europe. Que les choses soient extrêmement claires sur ce sujet.
Ce n'était pas non plus un moment politique pour Marion Maréchal, que Steve Bannon avait qualifié d'étoile montante de l'extrême droite. Marion Maréchal qui a refusé que Steve Bannon vienne à l'inauguration de son école de sciences politiques à Lyon. Elle dit ne pas comprendre les contours de son projet. Et partout en Europe, la greffe de l'Américain Steve Bannon prend mal. Le FPÖ autrichien s'est montré peu disposé à collaborer avec lui. Viktor Orban dit ne pas être intéressé par des choses qui ne touchent pas la Hongrie. Le nouveau patron de UKIP n'y voit aucun intérêt pour les Britanniques. En Allemagne, le patron de l'AFD n'y est pas favorable non plus. Quand sa rencontre avec le président tchèque a fini en douche froide, sur fond de désaccord sur les droits de douane américains contre la Chine. The Movement, le club de Bannon, aurait-il déjà du plomb dans l'aile ? Michael Modricamen, son bras droit en Europe, nous reçoit chez lui sur la commune de Watermaal-Boisfort, tout près de Bruxelles, le QG du club.
Moi, j'apporte peut-être la touche plus européenne et l'organisation sur place. Il apporte son prestige international d'ancien chef de campagne de Trump et de conseiller principal à la Maison-Blanche. Je crois qu'il faut le voir comme ça. Et c'est comme ça que nous allons fonctionner.
Qui pourrait rentrer dans ce club ? Qui est déjà rentré ?
D'abord, on y rentre par invitation. Alors, on va vous dire d'abord qui on ne prend pas, clairement. On a mis ça dès les premières minutes où on s'est vu, Bannon et moi-même. Nous excluons tous les mouvements extrémistes, quels qu'ils soient. Et puis il y a quelques mouvements, je ne les citerai pas, mais il y a peut-être des mouvements qui sont plutôt dans une zone grise, etc. Et on les étudie au cas par cas. Certains sont au pouvoir d'ailleurs, d'autres aspirent à l'être. On a décidé aussi, Steve et moi, nous avons beaucoup de contacts, c'est-à-dire on se parle au téléphone avec des leaders de partis, donc qu'on approche nous-mêmes ou qui nous approchent. Mais nous avons décidé que nous ne n'invitions qu'une fois que nous avons rencontré les dirigeants. C'est-à-dire qu'on doit aller les voir concrètement. Et ça va peut-être vous surprendre, mais les seuls à qui on l'a proposé jusqu'à présent, c'est les Italiens. On est allé voir. Et donc, on l'a proposé à Salvini, qui a accepté, et à Meloni, donc, de Fratelli, vous étiez là, qui a accepté également. Pour l'instant, nous avons proposé à trois, si je puis dire, puisque le troisième, c'est mon parti, et les trois ont accepté. Maintenant, nous allons continuer, je pense que ce sera essentiellement en novembre, notre tour d'Europe, aller voir leader par leader, expliquer. Et j'espère déboucher sur ce sommet, et on pense plutôt le faire la seconde quinzaine de janvier. Je crois qu'on a vraiment aidé à définir le cadre déjà du débat européen de 2019, en indiquant que, voilà, il y allait avoir une véritable option, un choix, entre une vision globaliste, avec plus d'Union européenne, qui pour nous est un désastre tel qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et puis notre vision qui est pour plus de souveraineté, c'est-à-dire que l'homme ordinaire retrouve un peu plus de prégnance sur son futur et les décisions qui sont prises, plus de respect pour les cultures, les valeurs européennes, les cultures judéo-chrétiennes, une limitation de l'immigration, comme je l'ai dit, et une lutte déterminée contre l'islam radical. Ça va être une véritable fracture très claire entre deux visions, assez polarisé d'ailleurs, de ce qu'est l'avenir de l'Europe. Et je pense que c'est aussi, au-delà de ça, une véritable bataille qui est menée pour l'âme de ce qu'est l'Occident. Je crois qu'il y a une rupture par rapport à la vision progressiste des 30 ou 40 dernières années, au multiculturalisme, et que l'instant, le mouvement est vraiment populiste. Il est en rupture par rapport à ça. Et le mouvement populiste, c'est le cri du peuple qui ne veut pas mourir. Et notre mission à nous, pensons être vraiment le porte-parole de l'homme de la rue, je veux dire de l'homme ordinaire qui a été, alors que beaucoup de décisions ont été prises sans tenir compte de lui, sans tenir compte de ses intérêts, par des élites un peu hors sol, terriblement technocratiques. Je les connais bien, j'en ai fait partie.
Donc, j'allais vous dire, ni Steve Bannon, ni vous n'êtes des gens de la rue, vous habitez dans une magnifique demeure.
Oui, alors, et c'est vrai, mais d'abord, on va relativiser, c'est que je viens d'un milieu très modeste, je veux dire, comme Steve Bannon d'ailleurs. J'ai travaillé, j'ai très bien gagné ma vie, lui aussi. À un certain moment, vous vous sentez vraiment appelé. Il y a une forme, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe et se dire, maintenant, ça ne peut pas continuer comme ça. Je vois et je comprends combien l'homme ordinaire a été le grand oublié et le grand méprisé, si vous voulez, de ces élites, qu'on connaît très bien, on les a fréquentés. On en fait partie. Parce que quand vous faites partie des élites, vous êtes dans de beaux bureaux, vous êtes dans les avions, vous êtes dans les hôtels, je dis, vous êtes dans des quartiers sécurisés. Votre expérience du multiculturalisme, elle est impeccable. Mais quand vous êtes l'homme ordinaire, vous coltez, si je puis dire, les gens nettement moins éduqués ou qui ont des visions totalement... Et ça, si vous faites partie des élites, vous ne pouvez pas le capter. Croyez-moi, vous ne pouvez pas le capter. C'est le peuple qui est en train de se réveiller et qui a dit, vous avez pris des positions, des attitudes, des politiques contraires à mes intérêts, vous m'avez forcé à vivre avec des gens avec qui je ne voulais pas vivre, très clair, vous m'avez mis en concurrence pour parler d'économie, vous avez laissé venir faire des produits de Chine et faire en sorte que, quand je vois dans les villes de France, souvent il y avait cette industrie qui structurait la moindre commune, etc. Et je vois, et elles sont pour la plupart, quand on passe en France profonde, elles sont abandonnées souvent et avec les commerces fermés, etc. Donc vous avez abandonné cette France profonde, voire... Vous avez pris des décisions à Bruxelles qui font que tout d'un coup, prendre un exemple, le camionneur belge ou français qui fait du transport international se retrouve tout d'un coup en concurrence avec le roumain ou le bulgare qui travaille pour le quart du prix. Vous avez pris ces décisions contraires à tous mes intérêts en projetant au chômage des millions de personnes. Eh bien, c'est la démocratie, ce peuple, il est en train de réagir, de reprendre les choses en main. C'est ça l'instant populiste. Et il est partout dans le monde. Les peuples n'acceptent plus ce diktat du politiquement correct, de certaines élites, d'une partie des médias. Tout ça est en train d'exploser. C'est l'ancien monde, c'est cet ordre libéral progressiste, libre-échangiste, politiquement correct, qui est en train d'être mis en cause. Et c'est un point de rupture dans l'histoire, je pense, de l'Occident, ce qui est en train de se passer.
Quelles seraient donc les armes de Steve Bannon pour faire exploser l'Union européenne ? L'ancien vice-président de l'entreprise Cambridge Analytica, au cœur d'un scandale de vol de données personnelles de millions d'utilisateurs Facebook, va proposer conseils en stratégie et communication, analyse et sondage aux partis populistes. Une aide technique que Marine Le Pen finalement disait ces derniers jours accueillir avec grand intérêt. Anthony Mansuy est journaliste au magazine Society. Il a suivi quelques jours Steve Bannon à Rome en juin dernier.
Sa stratégie pour son arrivée en Europe, elle est calquée sur celle qu'il a mise en place aux États-Unis à partir de 2012. En gros, il crée trois choses, Steve Bannon, avec l'appui d'un seul milliardaire qui s'appelle Robert Mercer. Il crée d'abord Breitbart, qui est un média sensationnaliste sur Internet, qui joue très très bien avec des codes de l'époque, notamment les codes de diffusion de l'information sur Facebook. Plus c'est trash, plus ça joue sur l'émotion, plus ça remonte dans les algorithmes. La deuxième arme, c'était une entreprise qui s'appelait Cambridge Analytica, qui est en gros une entreprise de science des données, pour formuler des messages pour qu'ils touchent le mieux possible chaque personne, c'est plutôt segment de la population. Et la troisième arme, qui est la moins connue, qui s'appelle Government Accountability Institute, qui en gros est tout simplement un institut, une association de journalisme et d'investigation, mais encore une fois, pas par but citoyen, d'intérêt général, mais plutôt à des fins politiques très précises. C'est qu'en gros, il savait que ce serait Hillary Clinton qui serait candidate en 2016, et en gros, il voulait déterrer tous les cadavres qu'il y avait dans les placards de Clinton. Et donc, Robert Mercer a financé ça, puisque lui aussi est ultra-libéral, ultra-conservateur. Et donc, ils ont sorti un bouquin sur elle, qui s'appelait Clinton Cash, et qui a essaimé dans le discours politique américain, dans la sphère publique américaine, l'idée que Hillary Clinton était crooked, donc malhonnête. Donc du coup, Steve Bannon arrive en Europe aujourd'hui avec cette ambition, et ses ambitions plutôt, de refaire un peu la même chose, sauf que l'écosystème européen dans les médias est plus complexe aux États-Unis, où il y a deux langues majoritairement parlées. En Europe, il y en a plus d'une vingtaine. Donc déjà, faire un média pan-européen, c'est très très difficile et surtout très très coûteux. Même si Bannon affirme que l'argent n'est pas un problème, je pense qu'il va quand même se heurter à des difficultés à ce niveau-là. Faire Cambridge Analytica, c'est pas évident parce que les lois sur l'utilisation des données en politique sont beaucoup plus restrictives en Europe, notamment en France, qu'aux États-Unis. Et ce qu'il reste, c'est cette idée de faire du journalisme d'investigation à des fins politiques. Pas à des fins d'intérêt général, comme on peut l'entendre quand on dit journalisme d'investigation en règle générale. Là, c'est en gros, il faut que je fasse tomber tel mec avant telle élection, je vais aller enquêter dessus, et ensuite, soit je sors un bouquin, soit je file les conclusions aux médias grand public de tel pays, pour derrière changer, encore une fois, le discours d'une société sur elle-même.
Steve Bannon, l'Europe dans le viseur, un reportage d'Annabelle Grelier avec Jean-François Braun à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
En studio avec nous, l'historien François Durpère et le politologue Jean-Yves Camus. Alors on vient d'entendre le journaliste Anthony Mansuy dire quelles sont selon lui les armes de Steve Bannon. Est-ce que vous partagez son analyse, François Durpère ?
Oui, ce qui intéresse en Europe, c'est qu'il est en partie l'homme qui a fait gagner Donald Trump. Autrement, évidemment, on n'en parlerait pas. Est-ce que c'est juste cette analyse ? Est-ce qu'il a effectivement fait partie de ceux qui ont fait gagner Donald Trump ? Oui. On pourrait rajouter à ce que dit Anthony le fait qu'il est celui qui a vraiment structuré idéologiquement le discours de Donald Trump, notamment autour de l'idée d'un grand remplacement américain. Les Hispaniques allaient submerger l'Amérique anglo-saxonne en insistant sur la démographie. 2050, la majorité des Américains seront des blancs, la minorité américaine sera blanche non hispanique. Et puis il y a aussi, et ça c'est aussi intéressant, le rapport aux institutions. C'est-à-dire, Donald Trump ne doit pas se présidentialiser. Il faut rester au banc du système, dit Steve Bannon. Et à un moment donné où Donald Trump gagne les primaires, beaucoup de ses conseillers lui disaient « Maintenant, il faut montrer que tu es capable d'être un président. » Et Steve Bannon était l'un des seuls autour de lui de dire « Non, ce qui fait ta force, c'est on va trumpiser la fonction présidentielle, on ne va pas présidentialiser Donald Trump parce que c'est une partie de notre succès, c'est de rester. » Donc ça veut dire qu'il y a quand même un héritage de Steve Bannon qu'on continue à lire dans les deux ans de mandat de Donald Trump. Il y a quand même du Steve Bannon, même s'il n'est plus dans l'entourage de Donald Trump, c'est que Donald Trump continue devenu, eh bien, est un peu bannonien. Il continue tout le temps à être en résistance avec ça, à en tout cas faire la mise en scène de sa résistance aux institutions, y compris sa résistance à la Maison Blanche, parce que vous vous rappelez, il y a quelques semaines, il y a eu cette tribune d'un anonyme à l'intérieur de la Maison Blanche disant nous sommes quelques-uns à résister au président. La question intéressante, c'est de dire est-ce que c'est pas Donald Trump qui résiste à la Maison Blanche, c'est peut-être le seul résistant, même à l'intérieur du parti républicain, parce qu'on voit que sur un certain nombre de sujets, le libre-échange, il y a peut-être que sur la Cour suprême où il est vraiment très républicain, pour le reste, eh bien, il reste le résistant à l'intérieur du système, y compris républicain.
Jean-Yves Camus, Anthony Mansuy dit que certaines choses qui ont fonctionné aux États-Unis ne fonctionneront pas en Europe. En revanche, il dit qu'en ce qui concerne le journalisme investigation, ça reste une arme effectivement très importante. Qu'est-ce que vous en dites, vous ?
Il a raison, et il faut préciser ceci. Vous avez mentionné au début, avant le reportage, le livre que nous avons publié avec Nicolas Lebourg. Alors, il a été publié aux États-Unis aux presses de Harvard, et la critique principale que nous avons eue était que nous remontions jusqu'à la Révolution française. Alors, la majorité de nos collègues américains ne comprenaient pas pourquoi un livre consacré à l'extrême droite de 2018 devait remonter jusqu'à la Révolution française, ou jusqu'à, en tout cas, au XVIIIe siècle, pour ce qui parlait d'autres pays. Et notre réponse, ça a été, mais attendez, l'Europe, c'est effroyablement complexe. Vous avez 28 pays membres de l'Union européenne, chacune a son contexte historique, chaque extrême droite, par le fait même que ses partis sont patriote ou nationaliste, est évidemment arc-bouté sur un récit fondateur, sur un certain nombre d'événements particuliers. Et ben non, l'histoire de l'extrême droite, ça commence pas au début du XXe siècle. Donc ça, c'est déjà la première grande difficulté qu'ont nos amis américains à nous comprendre, c'est qu'il y a une profondeur historique dans chacun des pays européens qui rend compliqué pour eux de comprendre une campagne européenne qui va s'y rouler dans 28 pays. Et probablement dans quelques années, dans encore davantage. Maintenant, il y a une autre difficulté, c'est que Steve Bannon a derrière lui visiblement un régisseur qui se fait un petit peu des idées. Quand Monsieur Modricamen se présente comme étant l'ami de tel ou tel, ou quand il évoque l'éventuel ralliement des républicains à son front des populistes, je pense qu'il prend ses désirs pour des réalités.
On a entendu la réponse. Effectivement.
Oui, mais au-delà, il ferait bien de regarder dans son jardin.
Oui, en même temps, il cite Thierry Mariani, et Thierry Mariani, que l'on a joint au téléphone, dit effectivement qu'il réfléchit pour être sur une liste Rassemblement National.
Thierry Mariani, s'il franchit le pas, avec quelques autres, on a évoqué le nom de Jean-Paul Garot, sera un ancien député. Jean-Paul Garot aussi sera un ancien député. Ça ne manque pas au Front National, les ralliements d'anciens quelque chose. Je rappelle quand même qu'en 1986, Jean-Marie Le Pen a, pour les élections législatives qui se déroulaient pour la première fois à la proportionnelle, eu l'idée assez géniale d'élargir les candidatures du Front National pour présenter des notables venus de la droite traditionnelle sous le vocable « Rassemblement National ». Ça vous dit pas quelque chose ? Il a effectivement ramené à lui un certain nombre d'hommes politiques de moyenne envergure, Yvon Briand, qui venait du CNIP, le docteur François Bachelot, Olivier d'Ormesson, etc., qui ont été élus. Qui ont siégé, qui au Parlement européen, qui à l'Assemblée nationale, trois petits tours et puis s'en vont, parce qu'au moment du point de détail, ils se sont aperçus qu'ils n'étaient pas issus de la même matrice idéologique et que ça ne pouvait pas durer. Ce dont le Front National a besoin pour percer, je ne veux pas lui donner de recette, mais c'est non pas de transfert de gens qui ont été quelque chose, mais de gens qui détiennent aujourd'hui un mandat électif et qui disent à un moment donné à leur parti, par exemple LR, écoutez, voilà, moi qui suis député, je ne suis plus d'accord avec vous, et je dis à mes électeurs, je me retrouve aujourd'hui dans les options du Rassemblement National. Est-ce que ça existe, ça ? Non. Pour en revenir à M. Modricamen, les Belges ont voté le 14 octobre. Ils ont, dans certaines communes, accordé au Parti Populaire entre 6 et 7% des voix. Mais la moyenne, ça reste quand même entre 2 et 3. Entre 2 et 3, ça veut dire que le Parti Populaire est une formation marginale dans une vie politique belge qui a donné, dimanche dernier, beaucoup plus de voix, d'abord aux écologistes qui sont les grands vainqueurs, et ensuite à la gauche radicale, au Parti du Travail de Belgique, qui lui effectue une véritable percée, va rentrer dans les exécutifs communaux, et drague aussi la clientèle de l'électorat populaire, notamment en Wallonie, de toutes ces zones désindustrialisées, qui sont en déshérence, mais ça n'est pas pour ça que les électeurs qui souhaitent protester contre la globalisation libérale en Belgique ont voté pour M. Modricamen.
Mais il vous dira que son parti est le premier parti sur les réseaux sociaux.
Oui, c'est une première partie sur les réseaux sociaux. Ça reste d'abord à vérifier. Ensuite, c'est peut-être vrai dans la partie francophone du pays, comme on dit en Belgique, mais ça ne l'est pas en Belgique en général. Et puis, à un moment donné, vous savez, les réseaux sociaux, c'est bien, ça permet effectivement de démultiplier une activité, mais l'électeur, quand il passe dans l'isoloir, il a besoin, notamment pour certaines catégories spécifiques d'électeurs, qui connaissent eux aussi la fracture numérique, qui sont peut-être moins sensibles à ce type de moyens de communication parce qu'ils sont plus âgés, il a besoin d'avoir de la vraie communication politique.
Alors, Jean-Yves Camus, vous dites que Steve Bannon prend ses idées pour des réalités. Tout de même, François Durper, aux États-Unis, on a vu la puissance de ces outils, des réseaux sociaux, de la manière dont ils ont été utilisés, de la manière dont les données big data ont pu être utilisées pour toucher les grands électeurs et faire élire Donald Trump. Est-ce que ces outils-là, on peut les imaginer décliner en Europe et utilisé par les partis populistes?
En fait, la question, c'est de savoir si effectivement Steve Bannon arrive comme un accompagnant idéologique ou s'il arrive aussi comme un accompagnant professionnel, technique. Et là, c'est la grande question. Est-ce qu'il y a de l'argent derrière? Est-ce qu'il y a vraiment une stratégie il dit, bon, je vais passer du temps, mais s'il passe, lui, 80% de son propre temps, c'est pas ça qui va changer la face de l'Europe. En revanche, si effectivement, il vient avec beaucoup d'argent, ça peut être différent. Mais il y aura quand même... on voit bien ce qui est intéressant dans le reportage, c'est que on voit que ça permet de se... en quelque sorte, pour beaucoup de partis, je ralentis parce que je cherche le mot, populiste, nationaliste, etc. Ben justement, précisément, de se définir par rapport à Bannon. Qui on est? On est d'extrême droite, on est souverainiste, on est populiste, on est nationaliste, on est conservateur. Et regardez le propos de Florian Philippot, lui dit, c'est exactement l'inverse de moi, Steve Bannon. Qu'est-ce que, dans les débats de société qui intéressent les conservateurs américains, qu'est-ce qui peut être greffé en France? Le droit à l'avortement, c'est structurant. Enfin, plutôt, mettre fin au droit à l'avortement. Est-ce que ça fait recette où, du côté européen? Le combat terrible contre la bureaucratie washingtonienne. Alors, on peut enlever la bruxellienne washingtonienne par la bureaucratie tout court. Quel vraiment grand parti va se structurer autour de cette haine de la bureaucratie qui anime vraiment la droite américaine et la droite de la droite américaine? La défense de la famille chrétienne, très important. Là aussi, ça va plaire à certains, mais à quel parti vraiment? Comment ça? Le rejet de l'impôt. Alors là, du coup, on est encore plus loin. Rejet de l'impôt, ça fait recette aux États-Unis. Vous avez des gens qui vont dire, très bien, ce sont des tyrans, ceux qui veulent prélever l'impôt. Et justement, on va chercher du côté de la révolution américaine, la Boston Tea Party. Mais est-ce que ça va structurer quelque chose? Puis il y a d'autres choses qui posent problème. Steve Bannon, c'est qu'il est russophobe. Alors, dans certains partis européens, sa russophobie, ça va pas être très, très apprécié. Ses liens avec, on va dire qu'il a fait quelques déclarations qui ont été vues aux États-Unis comme antisémites. Et ça, dans certains partis, regardez du côté notamment du Front National, c'est quand même structurant de rejeter l'antisémitisme à papa. Ça non plus, ça va. Il y a un moment donné où Steve Bannon, il va poser aussi problème.
Il s'affiche pas comme ça en tout cas en Europe. Hein. Il ne veut pas dans son club. De racistes, d'antisémites.
En tout cas,
il ne
peut pas retirer le fait aussi qu'il est américain. Donc là, du coup, il y a quand même dans les histoires de ces mouvements européens un rapport à l'américanité qui est quand même particulier. Même si c'est pas l'américain multiculturaliste, c'est l'américain quand même. Et vous avez entendu d'ailleurs. Puis il y a cette idée aussi que si on est souverainiste, qu'on est attaché à l'indépendance, comment on va créer une nouvelle prolétaire de tous les pays, unissez-vous? Alors, nationaliste de tous les pays, internationalisez-vous? Il y a quelque chose qui va pas passer. Jusqu'à quel point on va se fédéraliser, même pour conquérir le pouvoir? C'est quand même aussi une grande question.
Jean-Yves Camus, l'Américain Steve Bannon propose une offre inadaptée à l'Europe.
Steve Bannon, américain ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs, a des qualités professionnelles. Il peut, comme le disait M. Modric-Amen, apporter des prestations, des argumentaires, des techniques de sondage, des techniques de levée de fonds. Ce sera plus compliqué parce que la législation américaine sur le financement des campagnes électorales n'est pas du tout la nôtre. Mais il peut apporter effectivement de la technique, comme il le ferait pour n'importe quel parti politique. D'ailleurs, il a déclaré qu'il était prêt à aller en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud, enfin, en fait, n'importe où, où son entreprise, parce que c'est avant tout un entrepreneur, peut avoir des clients. Mais il aura à faire face, il a déjà à faire face, à une dimension anti-américaine qui est assez profonde dans les droites nationalistes européennes. Et d'ailleurs, si M. Gauland, Alternative pour l'Allemagne, lui a dit « Écoutez, désolé, pas avec moi », c'est peut-être parce que finalement, en Allemagne, même au sein d'électeurs qui ne sont pas des néo-nazis, faire appel à un consultant américain, c'est quand même un peu faire appel à l'envahisseur, au type qui a imposé militairement, par l'occupation militaire, les règles de droit qui fondent la loi fondamentale allemande. Donc ça passe pas très très bien. Maintenant, moi je suis aussi sceptique sur autre chose, c'est le rôle de Steve Bannon dans le lent processus d'évolution du Parti républicain américain qui a amené Donald Trump au pouvoir. Parce que les déclarations sur le grand remplacement américain, c'est déjà celle que j'entendais gamin en Californie au moment où César Chavez, le leader syndical d'origine mexicaine de l'époque, fomentait un certain nombre de grèves, des ouvriers en l'occurrence agricoles, qui faisaient craindre à la bourgeoisie blanche qu'un jour, elle soit minoritaire dans son propre pays. Donc c'est quelque chose qui est très ancien.
C'est fait en Californie. C'est déjà le cas en Californie.
Ce qui est le cas en Californie. Et puis, dans le grand mouvement conservateur américain, il y a des gens qui me semblent avoir beaucoup plus l'étoffe de théoricien et de penseur que M. Bannon. Quand j'entendais Mme Meloni au début du reportage dire, ça n'a pas été traduit, le grand penseur Steve Bannon, non, oui. Ce qu'il dit est d'une banalité affligeante. Il y a
même quand Dupont-Aignan dit, il peut nous intéresser sur le plan intellectuel, on va compter quand même le nombre d'articles intellectuels et de l'ouvrage. Alors, il est documentariste, donc peut-être une pensée dans ses films. Dans
je conseillerais à M. Dupont-Aignan de lire au choix William Buckley pour les anciens et Rod Dreher pour ceux qui véhiculent une pensée beaucoup plus contemporaine.
Mais alors, Steve Bannon.
C'est un compilateur. J'ai relu la déclaration qu'il a faite, qui a été assez controversée sur Julius Evola, par exemple, ce penseur du traditionnalisme italien accusé d'avoir versé dans le fascisme. Alors il dit des choses très générales comme « Oui, vous savez, auprès de Donald Trump, il y a un conseiller qui se réclame de l'eurasisme et qui a puisé chez un Italien qui devait s'appeler, attendez, Julius Evola, qui par la suite est devenu fasciste. » Enfin, on n'est pas du tout dans la littérature scientifique, ni même dans la littérature d'amateurs éclairés. C'est assez pauvre intellectuellement. Ce sont des recettes marketing. Ça relève plus de la stratégie du banquier que de la stratégie de l'intellectuel.
François Durper, vous êtes d'accord? Steve Bannon n'est pas à la hauteur de ses ambitions?
Je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de relever que beaucoup de ces partis-là, ils n'ont pas l'œil sur Steve Bannon. Ils ont l'œil sur le patron. Le patron, c'est Trump. C'est quand même lui qui a gagné l'élection. Et c'est lui qui scoltine cette réalité de « il a la première puissance du monde, comment il va être réélu ?» Parce que là, il a plus Steve Bannon, mais sur quelle stratégie il va être réélu ? Mais avec toujours les limites d'un système américain qui n'existe à aucun autre endroit du monde. C'est-à-dire qu'on peut pas gagner dans aucun pays européen en gagnant, en se disant « je vais faire main basse sur le Wisconsin, sur l'Ohio, sur la Pennsylvanie, quatre États ». Sur l'ancien mur bleu démocrate, en allant chercher et puis en allant gagner cette élection avec une minorité de voix, ce qui va peut-être refaire en 2020, hein, en ayant la même stratégie. Vous le voyez d'ailleurs, parce que c'est sa stratégie du quotidien, hein, Donald Trump. Il n'a jamais essayé d'élargir son électorat et jamais tenu un discours. Peut-être parfois quand il va devant le Congrès, mais ça c'est un petit peu, si vous voulez, le discours sur l'état de l'Union, c'est le passage obligé. Le discours sur l'état de l'Union, il faut parler un peu d'unité. Mais pour le coup, sa stratégie, c'est tout le temps de ne pas décevoir son propre électorat. Mais c'est pas d'élargir. Mais ça, c'est possible dans quel pays d'Europe ? C'est ni possible dans un pays d'Europe, et c'est pas possible non plus à l'échelle européenne. Donc, en revanche, la manière dont Trump gouverne, ça intéresse véritablement en Europe.
Alors, Steve Bannon fait quand même valoir...
Comment il reconstruit des frontières ? Jusqu'à quel point il est capable de reconstruire des frontières ? Ça intéresse.
Alors, Steve Bannon se présente quand même comme un grand stratège. Est-ce que vous pensez que les partis populistes peuvent quand même être sensibles à certains de ces arguments? Et puis, certes, affiche une grande prudence, mais préfère peut-être discuter avec lui discrètement, loin des médias, pour essayer de profiter de certains des outils qu'ils peuvent lui apporter.
Moi, j'ai beaucoup de mal à croire que des personnalités fortes comme Matteo Salvini, Marine Le Pen, M. Kaczynski, M. Orban, après être arrivés au pouvoir pour trois d'entre eux, ou avoir acquis tout de même une certaine importance dans la vie politique de leur pays respectif, se disent subitement, j'ai trouvé plus intelligent que moi, meilleur stratège que moi, et plus riche que moi, donc je vais faire allégeance. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que la grande erreur de Monsieur Bannon, c'est sans doute de ne pas avoir vu que les populistes, ou n'importe quelle manière qu'on les appelle, ont réussi à faire leur trou par eux-mêmes, sur la longue durée, puisque c'est un phénomène qui s'est enquisté dans la vie politique depuis les années 80, et qui, au fond, même s'ils n'ont pas tous décroché la timbale, notamment Marine Le Pen, ils ont quand même réussi à partir de rien, je dis bien rien, moins de 1% des voix pour le Front National, réussi à construire quelque chose, à la fois idéologiquement et électoralement. Il y a un socle. Aujourd'hui, c'est pas Monsieur Bannon qui a créé le socle électoral du FPE autrichien, du Front National français ou même de la Ligue du Nord. Donc, que des gens qui ont aussi bien réussi à partir de rien se disent aujourd'hui, pour franchir la marche supérieure, je vais me mettre pieds et poings liés à Steve Bannon, personnellement, je n'y crois pas.
Mais est-ce que Steve Bannon ne pourrait pas servir d'amplificateur, finalement ? Ou de focus sur cette campagne.
Bon, les amplificateurs, ils existent. Je crois qu'il y a une dynamique qui est en marche et qui est proprement européenne. C'est que nous savons déjà sur quoi vont se faire les élections de mai prochain. D'ailleurs, il n'y a pas que les populistes pour dire ce sera l'oligarchie contre le peuple et ce sera les mondialistes contre les européistes. Le président de la République lui-même a décidé des termes du débat en disant qu'il entendait incarner une alternative progressiste à ce que sont les, je reprends son mot, populistes. Par conséquent, tout le monde est d'accord aujourd'hui sur les termes du débat. Cette élection sera, dans tous les pays européens, un vote pour ou contre l'Europe fédérale, pour ou contre l'immigration, pour une forme d'identité organique et davantage hostile au multiculturalisme, tout à fait hostile au multiculturalisme. Les termes du débat sont posés. Monsieur Bannon pourra sans doute apporter, encore une fois, des idées, de la technique, du savoir-faire, mais c'est pas lui qui dicte l'agenda.
Et alors, avec ou sans Steve Bannon, est-ce que des alliances sont utiles, souhaitables pour les partis populistes européens ? Est-ce que c'est intéressant pour eux, cette dynamique, de se dire, on met nos divergences de côté et on se met tous ensemble ? Ou est-ce qu'ils ont plutôt intérêt à défendre chacun leurs propres intérêts ?
Écoutez,
à dire chacun chez soi.
Admettez deux minutes que vous êtes Viktor Orban. Votre public est strictement hongrois. Vous êtes Premier ministre. Vous l'avez déjà été dans les années 90. Vous êtes membre du Parti Populaire Européen qui, pour l'instant, n'a pas décidé de vous siéger à la porte. Pourquoi est-ce que vous allez tuer votre stratégie qui consiste à dire urbi et orbi, je ne suis pas un homme d'extrême droite et je gouverne de manière respectable, en allant vous allier soit avec des oseaux qui font 3% des voix, soit avec des gens qui ont une étiquette extrême droite qui leur colle depuis longtemps. Moi, personnellement, je ne vois pas Monsieur Kaczynski, qui va peut-être gagner dimanche son pari de reprendre un certain nombre de grandes villes polonaises au parti pro-européen plateforme civique et qui est allié actuellement avec les conservateurs britannique. Bon, il y a certains problèmes, puisqu'il n'y aura plus de conservateurs britanniques, et d'ailleurs plus de britanniques du tout dans le prochain Parlement. Mais des alliés, il en trouvera. C'est pas un homme d'extrême droite. Lui aussi mène sa campagne pour dire partout, nous respectons l'état de droit, nous ne sommes pas des extrémistes. Et il va aller ensuite rejoindre l'alternative pour l'Allemagne. Non, ça, j'y crois pas deux minutes.
Donc le modèle, c'est plutôt l'Italie, avec l'alliance Mouvement 5 étoiles, Ligue ?
Encore faudrait-il trouver l'équivalent du mouvement 5 étoiles dans d'autres pays qui acceptent la même configuration. Et ça, c'est pas joué. Je crois que Michael Madrikamen a dit au moins une fois que ce type d'alliance pourrait un jour s'étendre jusqu'aux populistes de gauche. Bon, enfin, honnêtement, je sais bien que c'est à la mode, mais est-ce que quelqu'un imagine deux minutes une alliance Jean-Luc Mélenchon-Marine Le Pen en vue des élections européennes, législatives ou quoi qu'est-ce ? Il y a à un moment donné un éclaircissement tout de même à donner. Cet éclaircissement, c'est que la gauche radicale et la droite radicale peuvent partager un certain nombre de postures. L'appel au peuple, la démocratie directe contre la démocratie représentative. Mais que sur la question du multiculturalisme, sur la question de l'ouverture de la citoyenneté, sur un certain nombre de questions sociétales, ils sont aux antipodes. Ils ne peuvent tout simplement pas s'entendre.
Et ce qui ça permet de révéler cette arrivée de Steve Bannon, c'est que tous ces mouvements ne sont pas altermondialistes. Ce ne sont pas des altermondialistes. Ils ne cherchent pas une autre mondialisation.
Ils sont internationalistes, disait Jean-Claude Martinez.
Exactement. Donc ça veut dire que il y a ce point commun qui, entre eux, malgré, parce qu'on a parlé de l'Europe, mais on peut parler aussi du Brésil, la dimension d'anticorruption dans le mouvement d'extrême droite brésilien, elle est très très forte. La dimension postcoloniale dans le mouvement du Front National, elle est très très forte historiquement. Elle a pas de point commun avec ce qui se passe aux États-Unis, qui se vit comme un pays colonisé, qui a dû faire une guerre de décolonisation contre l'Angleterre. C'est très dur. Mais il y a cette réaction à la globalisation. Globalisation d'en haut, refus des élites. Globalisation d'en bas, multiculturalisme, refus du multiculturalisme. Ça, c'est ce point commun. Mais ça peut être une parenté de pensée. Ça ne peut pas constituer le socle d'alliance.
Alors, Jean-Yves Camus pense que Steve Bannon est venu chercher des clients en Europe. Vous pensez quoi, François Durper? Que vient chercher? Quel est l'objectif de Steve Bannon?
Que Steve Bannon ne serait pas en Europe s'il était encore à la Maison-Blanche. Et que s'il était toujours dans les bons papiers, qu'il avait toujours l'oreille de Donald Trump. Donc c'est aussi les limites de ce qu'il essaye de faire. C'est qu'il est perçu ici comme le banni, comme celui qui n'a plus l'oreille de Donald Trump aux États-Unis.
Steve Bannon cherche du travail. Merci François Durper, merci Jean-Yves Camus. Steve Bannon, l'Europe dans le viseur. Le grand reportage de cette semaine était signé Annabelle Grelier. Réalisation Jean-François Braun avec Jean-Guilain Meige à la technique. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.